André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur.
Bienvenue dans Théâtralité. Aujourd'hui, nous poursuivons notre cycle d'émissions sur l'œuvre d'Éric Emmanuel Schmitt avec le quatrième volet dans lequel nous allons aborder la pièce Le Visiteur avec nos amis comédiens Philippe Merlan. Bonjour Philippe.
Bonjour André.
Et Bernard Wynne. Bonjour Bernard.
Bonjour André.
Merci d'être parmi nous pour nous faire profiter de vos lectures. Dans cette pièce, Éric Emmanuel Schmitt oppose le personnage de Sigmund Freud, psychanalyste, homme rationnel et athée, à un personnage qui prétend être Dieu en personne. L'action se passe en un seul acte, en un temps réel, le soir du 22 avril 1938, c'est-à-dire entre l'invasion de l'Autriche par les troupes hitlériennes le 11 mars et le départ de Freud pour Paris le 4 juin. Dans Vienne occupée, Sigmund Freud, dans son bureau, vieux, malade, persécuté, inquiet pour le sort de sa fille Anna, qui vient d'être arrêtée par les nazis, est surpris par un mystérieux visiteur. Entre le vieil homme désabusé, qui ne croit que ce qu'il voit, et l'élégant personnage, spirituel et manipulateur, se noue un étrange dialogue. Voici un extrait de la scène 4, la rencontre entre les deux personnages Freud, Philippe, et l'inconnu, Bernard.
Bonsoir.
Quoi ? Qui êtes-vous, là ? Que voulez-vous ? Mais par où êtes-vous entré ? Mais que venez-vous faire ici ? Il n'y a plus d'argent et vous arrivez trop tard.
Je vous préférais lorsque vous posiez des questions.
Mais qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ?
Vous ne me croiriez pas. Et ce n'est pas ce jouet qui vous y aidera. Causons, voulez-vous ?
Monsieur, je ne parle pas à un homme qui entre chez moi par effraction et refuse de se présenter. Hein.
Très bien, puisque vous insistez. Monsieur, je vous en prie, sauvez-moi, ils me poursuivent. Ils sont là, derrière moi. La Gestapo, ils m'ont vu, ils entrent dans l'immeuble. Sauvez-moi, ne dites rien.
La Gestapo ?
Cachez-moi.
Mais laissez-moi tranquille, hein.
N'avez-vous pas de pitié pour une victime ?
Pour une victime, oui, mais pas pour un simulateur. Hein.
Alors ne me demandez pas de vous raconter des histoires.
Bah écoutez, je peux faire deux hypothèses pour expliquer votre irruption ici. Soit vous êtes un voleur, soit vous êtes un malade. Si vous êtes un voleur, vos confrères de la Gestapo sont passés avant vous sans vous laisser une miette. Alors si vous êtes un malade, vous...
Quelle serait la troisième
vous n'êtes pas
hypothèse
malade ? Vous n'êtes pas malade ?
Malade ? Le vilain mot, comme un coup de main que la santé donnerait à la mort.
Et pourquoi viendrez-vous, sinon ?
On peut trouver bien d'autres raisons, la curiosité, l'admiration.
C'est ce que disent tous mes malades.
Je viens peut-être pour quelqu'un d'autre.
C'est ce que disent ensuite, hein.
Bon, eh bien même, admettons que j'ai besoin de vous, que me proposez-vous ?
Non, mais de prendre rendez-vous. À bientôt, monsieur. À une heure qui vous conviendra à tous deux, et dont nous aurons décidé tous les deux, dans quelques jours.
Impossible, car demain je ne serai plus là, et dans 8 semaines, vous non plus.
Pardon ?
Vous serez à Paris, chez la princesse Bonaparte, puis à Londres, à Maresfield Gardens, si ma mémoire est bonne.
Maresfield Gardens ? Mais vous pouvez dire ce que vous voulez, je n'en sais rien, je n'ai rien prévu.
Si, vous y serez bien, vous aimerez le printemps londonien, vous serez fêté, et vous parviendrez à finir votre livre sur Moïse.
Je vois que vous lisez la presse scientifique, hein ?
Comment l'appellerez-vous déjà ? Moïse et le monothéisme. Je préfère d'ailleurs ne pas vous dire ce que j'en pense.
Je n'ai pas encore choisi le titre. Hein. Moïse et le monothéisme. Bon, pourquoi pas ? La suggestion est... Vous intéressez à la psychanalyse ?
À vous seulement ?
Mais qui êtes-vous ?
L'inconnu lui fait comprendre qu'il ne le croira pas. Il lui explique qu'il est malade et qu'il a besoin du docteur Freud. Celui-ci finit par accepter et lui pose plusieurs questions. Toutefois... L'inconnu répond de manière évasive, refusant même de répondre à certains interrogatoires. Freud décide de changer de méthode et demande à l'inconnu de lui raconter l'histoire qu'il désire.
J'avais 5 ans et à cette époque le ciel avait toujours été bleu, le soleil jaune, et les bonnes chantaient du matin au soir en laissant échapper de leurs seins entrouverts un parfum de vanille. Et puis un jour, je restais seul dans la maison, dans la cuisine de la maison. C'était une vaste pièce dont tous les meubles étaient collés au mur, agrippés, comme pour fuir l'immense espace vide où les carreaux blancs et rouges dessinaient des chemins fuyants de toutes parts. D'ordinaire, c'était mon terrain d'aventure. À quatre pattes, on pouvait courir entre les jambes des domestiques, récupérer des bouts de lard ou lécher des fonds de plat à gâteau. Pourquoi tout le monde était-il sorti ce jour-là? Je ne sais pas. C'est une question d'adulte. Je ne l'avais pas remarqué. J'étais là, assis sur les carreaux rouges brûlés et blancs perdus. Chaque carreau révélait un monde. Il n'y a que pour les adultes que les carreaux constituent platement un sol. Pour un enfant, chaque carreau a sa physionomie particulière. Celui-ci, dans le relief de ses irrégularités et la variation de ses coulées, racontait l'histoire d'un dragon qui se tenait la gueule ouverte au fond d'une grotte. Un autre montrait une procession de pèlerins. Un autre, un visage derrière une vitre, taché de boue. Un autre, la cuisine était un monde immense où venaient affleurer d'autres mondes, montant d'ailleurs par les yeux borgnes des carreaux. Et puis, soudain, j'ai appelé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour m'entendre exister et pour voir arriver quelqu'un. J'ai appelé, donc. Il n'y eut que le silence. Les carreaux devinrent plats. Ils se taisaient. Le fourneau s'était endormi. La cheminée, où d'habitude ronronnait toujours une casserole, semblait morte. Et je criais. Et ma voix montait au premier, au second, retentissait entre les murs vides où il n'y avait nulle oreille pour l'entendre.
Mais ma voix montait, 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 et l'écho ne m'en revenait pas que pour faire mieux entendre le silence.
La cuisine était devenue étrangère, une juxtaposition de choses et d'objets, un sol bien propre.
Le monde et moi, nous étions séparés désormais. Alors j'ai pensé, je suis
Sigmund Freud, et j'ai 5 ans.
J'existe, il faudra que je me souvienne de ce moment-là.
Et tu as pensé aussi, mais sans le formuler cette fois-ci, et la maison est vide quand je crie et je pleure. Personne ne m'entend. Et le monde est cette vaste maison vide où personne ne répond lorsqu'on appelle. Je suis venu te dire que c'est faux. Il y a toujours quelqu'un qui t'entend et qui vient.
C'est impossible. On vous aura renseigné. Vous êtes allé à la Gestapo, vous avez lu mes papiers.
Pourquoi? Avez-vous déjà écrit cela?
Non, ni même raconté. Vous venez de l'inventer.
L'inconnu ne s'arrête pas là et lui révèle quelques épisodes de son avenir. S'apercevant que son sujet est intriguant, Freud décide d'avoir recours à l'hypnose. Cela étonne l'inconnu qui pensait que Freud avait abandonné cette pratique. À son grand étonnement, l'inconnu répond toujours de manière vague en lui révélant son futur proche. L'homme sort de l'hypnose au moment où Freud cherche à savoir à quel moment il quittera la Terre. Progressivement, Freud se demande s'il n'est pas en train de converser avec Dieu. Mais le soldat nazi qui le persécute et dont il parvient à déjouer les pièges lui apprend qui sont à la recherche d'un homme qui se serait échappé de l'asile. Voici un troisième extrait de la scène 8.
Walter Oberseit.
Pardon ?
Walter Oberseit. C'est le nom de l'homme qu'on cherche.
C'est-à-dire le vôtre.
Walter Oberseit. Un pauvre homme que l'on a élevé et enfermé dans une cave durant ses 12 premières années. Lorsqu'on l'a délivré, il n'avait jamais vu le jour ni entendu une voix, il ne connaissait que les ténèbres. Il est resté prostré pendant des mois. On a dit qu'il était imbécile. Puis, lorsqu'on l'a amené à la parole, il s'est mis à inventer des histoires, des récits où il se mettait en scène comme pour rattraper toute cette vie perdue. On a dit alors qu'il était mythomane. Personne n'avait rêvé sa vie pour lui. Personne ne se pencha sur son berceau en lui prêtant le succès, le brillant ou les plus belles amours. Les fous sont toujours des enfants que personne n'a rêvé. Je me sens très proche de lui.
C'est étrange. Vous m'avez roulé, je ne vous en veux même pas. Au contraire, même, je me sens comme débarrassé d'une douleur, comme si l'on m'avait enlevé l'épine.
C'était le doute.
Le monde a mal ce soir. Il retentit des chants de la haine. On me prend ma fille et un malheureux entre chez moi que, pour la première fois, je ne veux pas soigner. Car je ne vous soignerai pas. Ni ce soir, ni demain. Je ne crois plus à la psychanalyse, plus dans ce monde aussi. Faut-il sauver un canari lorsque toute la ville brûle? Comment croirais-je encore à une cure? N'est-il pas ridicule de soigner un homme lorsque le monde entier devient fou? Est-il vrai que personne ne vous a aimé?
Aimé, vraiment, je ne sais pas.
Sans amour, il n'y a que solitude. Si je n'aimais pas Anna, Marthe, mes fils, mais aurais-je pu continuer à vivre?
Mais dans ce que vous appelez votre amour, il y a le leur, celui qu'il vous donne en retour.
C'est vrai, oui.
Tandis que lorsque vous êtes seul à aimer, tout à fait seul...
Je ne vous en veux pas de m'avoir menti, mais ce soir, je ne peux qu'attendre ma petite Anna. Rien d'autre. Venez me voir demain, nous parlerons. Je ne serai peut-être pas vous aimer, mais je vous soignerai, ce qui est une autre manière d'aimer. Je m'occuperai de vous. Voyez, ici, il n'y a que nous. Deux hommes et la souffrance. C'est pour cela que Dieu n'existe pas. Le ciel est un toit vide sur la souffrance des hommes.
Vous le pensez, vraiment?
La raison a fait fuir les fantômes. Il n'y aura plus de saints désormais, seulement des médecins. C'est l'homme qui a la charge de l'homme. Je vous soignerai.
Dites-moi, tout à l'heure, vous avez réellement cru que j'étais... lui?
Je perds du pied.
Mais c'est fini? Au fond, vous croyez plus facilement en Walter Oberseit qu'en Dieu.
Vous savez, monsieur Oberseit, je suis un vieillard. J'ai passé toute ma vie à défendre l'intelligence contre la bêtise, à soigner, à me battre pour les hommes, contre les hommes, sans trêve, sans respiration. Et à quoi cela me donne-t-il droit? Certains jours, ma gorge pue tellement que même Toby, mon chien, ne m'approche plus et me regarde, malheureux, du fond de la pièce. J'aurais souhaité une mort sèche, bref. J'ai droit à l'agonie. Alors mille fois j'aurais pu murmurer le nom de Dieu, mille fois j'aurais voulu boire le miel de sa consolation, mille fois j'aurais souhaité que la croyance à un Dieu me donnât du courage pour souffrir et entrer dans la mort. J'ai toujours résisté, c'était trop simple. Tout à l'heure, j'ai failli céder parce que c'était la peur qui pensait à ma place.
Il fallait céder.
Je prends assez de drogue, je ne veux pas de celle-ci.
Pourquoi pas celle-ci?
Parce que c'est l'esprit qu'elle anesthésie.
Mais si votre esprit en a besoin?
C'est la bête en moi qui veut croire, pas l'esprit. C'est le corps qui ne veut plus tremper ses draps d'angoisse. C'est un désir de m'être traqué. C'est le regard du chevreuil acculé au rocher par la meute et qui cherche encore une issue. Dieu, c'est un cri, c'est une révolte de la carcasse.
Alors, vous ne voulez pas croire parce que cela vous ferait du bien?
Je ne crois pas en Dieu parce que tout en moi est disposé à croire. Je ne crois pas en Dieu parce que je voudrais y croire. Je ne crois pas en Dieu parce que je serais trop heureux d'y croire.
L'inconnu prétend une nouvelle fois qu'il est Dieu. Mais Freud ne le croit pas. S'ensuit alors une discussion de ce que dirait Freud s'il avait l'opportunité de rencontrer Dieu pour de vrai. Freud estime que Dieu fait de fausses promesses et il réalise un grand monologue pour illustrer ses propos. L'inconnu raconte alors l'avenir qui se profile à l'horizon, les tourments en Orient, l'enfer en Occident, des millions de Juifs tués, leur graisse servant à fabriquer du savon. Pour lui, tout sera amputé par l'orgueil humain, qui aura voulu se désengager de Dieu en devenant athée. Voyant que l'inconnu continue à prétendre qu'il est Dieu, Freud lui demande de lui prouver qu'il l'est vraiment. Il utilise la fameuse réplique « Je ne crois que ce que je vois », que l'on attribue, à tort d'ailleurs, à saint Thomas, en raison de son scepticisme. L'inconnu tend sa canne à Freud qui, en se retournant, dévoile un bouquet de fleurs. Émerveillé, Freud se rend compte de la supercherie. Il est agacé, mais cela fait bien rire l'inconnu. Lassé de cette entrevue, Freud demande à l'inconnu de s'en aller, au moment où l'on frappe à nouveau à son bureau. Dans la scène 9, le nazi remet le testament à Freud qui explique que sa fille va être relâchée d'ici peu de temps. Avant de repartir, le nazi informe Freud que le fou nommé Walter Oberseit a été retrouvé et remis au personnel de l'asile. Voici le début de la scène 10.
La mort te brûle déjà. Pas besoin de rajouter des braises.
Pourquoi es-tu venu?
Vous dites cela parce que vous y croyez ou pour vous débarrasser encore de moi?
Pourquoi?
Je ne vous sens pas sincère.
Mais c'est vous qui ne l'êtes pas. Pourquoi êtes-vous venu? Vous ne devez pas me sceller la vérité.
Soit, je vais vous... Freud, j'ai le cou qui enfle.
Je vois. Et vous êtes très rouge. Hein?
Mon crâne tape, tape. Que se passe-t-il?
C'est la pudeur.
C'est toujours comme cela, ce qu'on va dire la vérité. Je comprends pourquoi les humains pratiquent tant le mensonge. Ce que c'est que de trop bien s'incarner.
Assez de détours. Pourquoi êtes-vous venu?
Pas pour vous convertir.
Mais encore.
Par ennui.
Mais vous plaisantez.
Méfiez-vous des explications superficielles. Elles sont souvent vraies. Non, ce n'est pas par ennui. C'est par haine. Je vous en veux.
De quoi?
D'être homme d'être bête, d'être borné, imbécile. Croyez-vous que ce soit un sort enviable d'être Dieu ? J'ai tout, je suis tout, je sais tout. Rond, rassasié, plein comme un œuf, gavé, écœuré depuis l'aube du monde. Que pourrais-je bien vouloir que je n'aurais pas ? Rien, sauf une fin, car je n'ai pas de terme, ni mort, ni au-delà, rien. Je ne peux même pas croire en quelque chose, à part en moi. Sais-tu ce que c'est l'état de Dieu ? La seule prison dont on ne s'évade pas.
Et nous ?
Qui nous ?
Les hommes. Ne sommes-nous pas une distraction ?
Vous relisez vos livres, vous ? Rien au-dessus, tout en dessous, j'ai tout fait. Où que j'aille, je ne rencontre que moi-même ou mes créatures. Dans leur présomption, les hommes ne songent guère que Dieu est nécessairement en mauvaise compagnie. Être le tout est d'un ennui et d'une solitude.
La solitude du prince.
La solitude du prince. Vous me croyez ?
Pas du tout.
Vous avez raison. Non, s'il vous plaît.
Et vous les laissez faire ?
J'ai fait l'homme libre.
Libre pour le mal ?
Libre pour le bien comme pour le mal. Sinon, la liberté n'est rien.
Donc, vous n'êtes pas responsable. Ils ont arrêté un couple, et ils l'amènent où ?
Dans des camps.
Des camps ? Empêchez-les. Empêchez tout ça. Comment voudriez-vous qu'on croie encore en vous après tout ça ? Arrêtez !
Je ne peux pas.
Allez, intervenez, arrêtez ce cauchemar, mais vite !
Je ne peux pas. Je ne peux plus.
Mais tu es tout puissant !
Faux ! Le moment où j'ai fait les hommes libres, j'ai perdu la toute-puissance et l'omniscience. J'aurais pu tout contrôler, tout connaître d'avance si j'avais simplement construit des automates.
Mais alors pourquoi l'avoir fait, ce monde ?
Pour la raison qui fait faire toutes les bêtises. Pour la raison qui fait tout faire, sans quoi rien ne serait par amour.
Dans les scènes suivantes, Anna, libérée par les nazis, revient et explique à son père comment les juifs sont traités. Elle se demande quel crime ils ont pu faire, si ce n'est être née avec une origine juive. Elle lui apprend qu'elle a dû prouver que son association internationale de psychanalyse n'avait rien de politique. Elle se sent honteuse de ne pouvoir rien faire. Heureux de retrouver sa fille, Freud l'informe qu'ils vont quitter le pays. Cela redonne de l'espoir à Anna, qui espère qu'ils pourront révéler aux yeux du monde ce qui se passe avec les nazis. Mais Freud, craignant pour la vie de ses deux sœurs, qui restent à Vienne, ne souhaite pas se lancer dans ce combat. Il souhaite lui présenter l'inconnu, mais celui-ci n'est pas là. Anna s'absente pour lui faire une tisane. Freud s'entretient avec l'inconnu et après quelques hésitations, ce dernier consent à rencontrer Anna, qui semble le reconnaître. Elle explique qu'il s'agit d'un homme mal élevé qui la suit depuis une quinzaine de jours. Il ne cesse de lui faire des sourires auxquels elle ne répond pas. Elle lui fait bien comprendre que ses sentiments ne changeront pas, et ce, même s'il en parle à son père. Elle quitte la pièce en colère, en informant son père qu'elle reviendra lorsque l'inconnu sera parti. Voici la fin, les deux dernières scènes de la pièce.
J'exige des explications. Vous auriez pu le prévoir. Vous auriez dû le prévoir, puisque vous savez tout.
Presque tout.
Mais c'est insupportable.
Ça y est, Freud. Le doute. Tu doutes de nouveau. Tu ne vas pas continuer, j'espère. Vous prendrez bien un peu de recul. Personne ne me voit. Chacun projette sur moi l'image qui lui convient ou qui l'obsède. J'ai déjà été blanc, noir, jaune, barbu, glabre, avec 10 bras et même femme. Je pense qu'au fond, la petite Anna ne trouve pas si déplaisant l'inconnu du jardin d'enfants.
Soit. Mais pourquoi riez-vous ?
Je me demande si... avec ce que je bois là, je vais pouvoir recommencer à faire la fontaine. Le docteur Freud me trouve puéril. On est toujours puéril lorsqu'on s'émerveille de la vie. Je pars, Freud. Je n'ai ni père, ni mère, ni sexe, ni inconscient. Vous ne pourriez rien pour moi, mais vous avez été une oreille. Merci.
Vous m'avez quitté ?
Je ne t'ai jamais quitté.
Je ne vous reverrai plus.
Autant que vous le voudrez, mais pas avec les yeux.
Comment ?
J'étais là, Freud. J'ai toujours été là, caché. Et tu ne m'as jamais trouvé. Et tu ne m'as jamais perdu. Lorsque je t'entendais dire que tu ne croyais pas en Dieu, j'avais l'impression d'entendre un rossignol qui se plaignait de ne pas savoir la musique. Docteur Freud, vous allez partir. Emmenez le plus de gens possible avec vous. Sauvez-les. Bonsoir.
Mais je ne sais toujours pas... Mais restez...
J'ai dit bonsoir, Freud.
Pas question, hein.
Quelle faiblesse, Freud.
Vous ne sortirez pas par la fenêtre comme un être humain, comme un escroc. Vous disparaîtrez là, sous mes yeux.
Le doute, toujours le doute. Bonsoir.
Je vais tirer.
Ah oui ?
Je vais tirer.
Bien sûr. Mais si j'étais le fou qui s'échappa ce soir, ce Walter Oberseit, ou bien cet homme qui poursuit chaque après-midi Anna de ses assiduités, vous feriez un cadavre, une balle, un mort ? Pensez, docteur Freud, perdre la foi et la liberté au même instant et puis finir dans une prison pour meurtre ? Le pari en vaut-il la peine ?
J'ai confiance, vous ne tomberez pas.
Eh bien, restez-en là. La foi doit se nourrir de foi, non de preuves.
Mais pourquoi vous moquez ? Tu serais le diable ? Tu ne ferais pas autrement.
Un Dieu qui se manifesterait clairement comme Dieu ne serait pas Dieu, mais seulement le roi du monde. Je m'enveloppe d'obscur, j'ai besoin du secret, sinon que vous resterait-il à décider ? Je suis un mystère, Freud, pas une énigme.
Je ne suis pas converti.
Mais toi seul peux te convertir, tu es libre. C'est toujours l'homme qui fait parler les voix.
J'ai rien gagné.
Jusqu'à ce soir, tu pensais que la vie était absurde. Désormais, tu sauras qu'elle est mystérieuse.
Aide-moi.
Au revoir, Freud.
Il a disparu ? Ah, tu me nargues, tu ne veux pas disparaître. Tu descends le long de la gouttière comme un voleur. Mais ça ne se passera pas comme ça. Ça... Raté.
Freud a tiré et constate qu'il a loupé sa cible. Cette pièce de théâtre, Le Visiteur, est donc très riche en questions-réponses, jouant sur deux tableaux, foi et athéisme. Schmitt se confronte ainsi aux deux courants de pensée. À travers cette discussion étrange, le lecteur se laisse séduire par toutes les portes qui s'ouvrent à lui et les réflexions auxquelles il est mené. Et finalement, la décision de croyance en Dieu n'appartient qu'au lecteur, car le dernier acte de la pièce ne permet aucunement d'avancer une piste, et c'est au lecteur seul de choisir ce qu'il veut croire. Merci Bernard, merci Philippe, et à très bientôt pour de prochaines lectures. Notre émission est maintenant terminée, voici la citation du jour. « La sagesse consiste souvent à suivre sa folie plutôt que sa raison. » Elle est dans « Le Visiteur » d'Éric Emmanuel Schmitt. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site de la radio altitudefm.com et toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union régionale fncta-midipi.fr. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'appeler au 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.